C'est-à-dire afin que lorsque tu viendras, tu puisses le dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis toujours dans ces questions d'idole. Vous savez que c'est le premier danger de notre vie chrétienne, c'est nous attacher à des idoles. Moi, j'étais pas du tout conscient pendant 25 ans de ma vie de cela, parce que je pensais qu'en Occident, il y avait, à part les églises catholiques, il n'y avait plus d'idoles. Hein. Simplement parce que j'avais associé les idoles à des statues, à des morceaux de bois, de fer, de pierre, etc., sans me rendre compte que les idoles ont changé de nature. D'ailleurs, j'ai dit, c'est évident, une fois que j'ai réalisé ça, simplement parce que les francs-maçons qui sont des frères, hein, ils veulent être des frères, se soutenir dans la vie, enfin voilà, ça c'est l'aspect, bon enfant, hein, de la franc-maçonnerie, c'est d'être des frères, se soutenir, quand on a des pépins avec la justice, voilà, on fait appel et on s'en sort, etc. Voilà. Donc, vous voyez déjà, on commence à dévier un peu, donc à ne plus être dans le droit à l'égalité. Mais ces francs-maçons sont d'origine des Templiers. Vous avez entendu parler des Templiers ? Les Templiers, ce sont ceux qui ont construit nos cathédrales au Moyen-Âge. Et dans toutes les cathédrales, vous avez des symboles, des vitraux, des choses comme ça, où il y a bien sûr l'Évangile, mais derrière l'Évangile, il y a des choses secrètes. Il y a des enseignements secrets. Et moi, j'avais un beau frère, le mari de ma sœur, qui s'intéressait beaucoup à ça. Et puis, comme j'avais une autre belle sœur, la femme de mon frère aîné, qui, à Strasbourg, guide officiel de Strasbourg, donc, a-t-elle visité la cathédrale de Strasbourg, il y a beaucoup de secrets, le soleil à certaines heures qui fait des trucs, les trucs qui s'illuminent, etc. Il s'était intéressé, il voulait tout savoir, tous les secrets, etc. Il veut chercher des secrets. Souvent, c'est des secrets de Polichinelle, mais c'est des secrets. Nous, les secrets que nous on a, c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dis à ton voisin, Christ est en toi. Ça, c'est le secret. Amen. Voilà. Et il suffit de savoir ça pour être éclairé. Amen. Christ est en nous. Pas besoin de. Hein? Est-ce que vous avez pas besoin de faire bac plus 7 là? Vous voyez, en 3 secondes, vous savez le secret. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Le mystère que Jésus a révélé à Paul, en particulier, c'était ça. C'était le mystère de l'Église où les païens et les juifs ont été réunis en un seul peuple grâce à ce mystère de Jésus qui est en nous, qui est tout. Et quand il est en nous, il nous transforme, il nous change, il nous façonne et il nous fait devenir comme lui. Amen. C'est ça le grand secret. Et ces fameux Templiers, bien, ils se sont passés des secrets, de secret en secret, et vous ne pouvez pas sortir de secret. Hein. Il y a les maçons, il y a, je sais pas comment ça s'appelle, l'apprenti, je crois. Enfin, il y a différents stades, voilà. Donc chacun a d'autres secrets. Et à la Renaissance, eh bien, ces Templiers sont transformés en maçons spéculatifs. C'est quoi le spéculatif ? C'est-à-dire qu'ils ont voulu non pas transformer les cathédrales, mais les hommes, l'humanité, l'humanisme. Et donc, ils ont dit, voilà, on va sculpter la personne humaine. C'est ça. La franc-maçonnerie, c'est tout. Donc, ils sculptent votre caractère. Quand vous rentrez en franc-maçonnerie, vous avez Serge Kremers, qui était le président de l'Expo Bible en 2006. Son fils est rentré là-dedans. Il a dit, je ne le vois plus, tout le week-end. Et il a ça à lire, voilà, et ils sont immergés de lecture, de connaissances, de choses comme ça. Voilà. C'est très très dur, parce qu'il faut tout, dans l'intellect, essayer de comprendre tout, voilà, le monde, la philosophie, tout, quoi. Voilà. Ça, c'est spéculatif. Et quand on entre dans le spéculatif, on rentre dans les symboles. Et ça, ce n'est pas des statues, ce n'est pas des choses physiques, c'est des choses immatérielles. C'est des concepts, c'est des choses comme ça. Et voilà. Et donc, nous, on est dans ces idoles-là. Et les chrétiens, et quand je retourne autour de moi, je vois que les chrétiens sont dans l'idolâtrie sans le savoir. Et ça, c'est grave, parce que l'idolâtrie amène la malédiction de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire avec des idoles, vous êtes d'accord ? Il ne peut pas partager sa gloire avec des idoles. En plus, les idoles ne sont rien. C'est les démons qui sont quelque chose, mais les idoles ne sont rien. Les idoles, ce sont des représentations imaginaires que font les gens, qui leur transposent des valeurs, des puissances, des choses comme ça. Et les démons se servent de ça. C'est les droits qu'on donne aux démons. Donc les démons, bien sûr, ils sont dangereux, mais au départ, ce n'est pas démoniaque. Au départ, c'est simplement des images qu'on se fait et qu'on valorise, qu'on donne plus de valeur qu'à Dieu. Voilà. Alors, pour revenir à ça, pourquoi je fais un petit peu ce break, time break, là, on reste un petit peu sur place. Parce que je ne peux pas vous parler de Jonas, parce que dans les idoles qui sont présentées ici, qui m'ont beaucoup parlé, il y a les idoles individuelles. Donc je vous ai parlé des idoles individuelles, de personnages dans la Bible. On tire ça de la Bible pour montrer que l'idole, c'est pas pour les païens, c'est pour nous. Voilà. Nous, on fabrique des idoles comme tout le monde. Le tout, c'est d'en être conscient et c'est de s'en repentir. C'est tout. C'est la seule chose, il ne faut pas s'en offusquer, il ne faut pas se culpabiliser de faire des idoles. C'est simplement savoir que c'est dangereux de rester dans l'idolâtrie et de demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi mes idoles. Quels sont ceux qui sont prêts à faire cette prière ? Montre-moi mes idoles. Voilà. Ben, vous êtes déjà sur le chemin de la guérison. Montre-moi mes idoles. Et quand vous faites ça, vous permettez à Dieu, au Saint-Esprit, de vous les montrer et ensuite après de les exposer et par le sang de Jésus, de les détruire. Amen. Tout ce qui est exposé à la lumière, hein, vous avez déjà exposé quelque chose à la lumière, hein, ça change de couleur, ça va. Tout ce qui est exposé, eh bien, l'ennemi ne peut pas y toucher parce que la puissance de Dieu va intervenir. Et donc, nous avons besoin de comprendre où se cachent nos idoles. Donc, on a vu Abraham, hein, qui avait l'idole de son fils, hein, Isaac. Nous avons eu Isaac, Jacob, nous avons vu Léa, etc. Et ça, c'est des idoles individuelles. Et si les idoles individuelles, on arrive encore à les discerner, soit par nous-mêmes, soit par quelqu'un qui nous le dit, soit par le temps qui fait son travail, il y a d'autres idoles qui sont beaucoup plus difficiles à déceler, qui sont les idoles culturelles, les cultures. Voilà. Les idoles culturelles. Et les idoles culturelles, bon, ça a été le cas de Jonas, donc un jour j'arriverai à vous parler de Jonas. Mais si je vous parle de Jonas, parce que moi-même, quand j'ai lu Jonas, j'ai lu et puis j'ai pas vu cette différence, il faut que je vous parle de la culture. Je vous parle ce que c'est que la culture. Ce qu'est la culture, hein, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Bon, ça, c'est un joke. Mais je veux dire, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que la culture ? Et donc, il faut que je vous explique ce que c'est que la culture pour que vous puissiez comprendre où, comment les idoles pénètrent au travers de la culture. Okay ? Parce que, quelque part, encore on est dans des paradoxes, c'est que si on est radical et qu'on dit, voilà, il y a les idoles culturelles, si je suis trop simpliste devant vous, vous allez dire, ah, je rejette la culture, j'ai plus d'idoles. Ce serait trop simple. C'est trop simple parce que c'est pas ça. Parce que par ailleurs, c'est ça le paradoxe, c'est que Dieu a permis qu'il y ait des cultures dans chaque nation, chaque endroit, parce que ça fait la richesse. C'est comme vous, il vous a fait différent de votre conjoint, différent de votre voisin, etc., parce que ça fait la richesse. Donc si vous le rejetez, vous n'avez plus de richesse. Vous voyez ? Donc en même temps, il faut le rejeter et en même temps, il faut le prendre. Voilà, donc on est dans ce paradoxe. Il faut accepter la culture et il faut la rejeter en même temps. Donc c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Et donc je suis obligé de faire un peu une préparation de vos cœurs sur l'idole de Jonas, qui était plusieurs idoles culturelles. Alors, pour ça, je vais essayer de m'aider d'un tableau pour vous donner quelques noms. Alors, je ne trouve plus mes notes, j'en ai trop. Donc, où est-ce qu'il y a mes notes là? Voilà. Il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Quand on parle de culture, il y a d'abord le royaume, les royaumes. Bon. Le royaume de Dieu. D'accord ? Quand on dit royaume, pensez bien règne. Hein, le règne de Dieu, c'est quelque chose d'important qu'on va constamment rappeler, parce que Jésus lui-même ne parlait que du royaume de Dieu quand il était sur terre. C'était sa prédication. Quels sont les autres royaumes que vous pouvez me citer, qu'on va lister ? Après le royaume de Dieu, il y a quoi ? Pardon ? Et le royaume du monde, royaume de ce monde, royaume de ce monde. Jésus en parlait. Quel est un des principes ? Tu n'étais pas là dimanche dernier, donc tu as l'indulgence de ne pas le savoir. C'est quoi le principe du royaume de ce monde ? C'est Mammon. Hein ? Mammon qui est le maître de ce monde. Est-ce qu'il y a un autre royaume ? Est-ce qu'il y a un autre royaume ? Pardon ? Oui, oui, non, mais n'hésitez pas de dire je ne reprendrai jamais pour dire c'est faux, parce que ça c'est de la bêtise de dire que c'est pas une bonne réponse. C'est toujours des bonnes réponses. Même si elles sont fausses, elles sont bonnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si elles sont fausses, ça vous permettra, ça me permettra de vous corriger. Vous acceptez la correction ? Le jour où vous acceptez pas la correction, c'est grave. Hein. Ouais, parce que vous êtes plus enseignable. Eh oui. Pourquoi est-ce que le professeur donne des copies pour vérifier ? C'est pour voir si ce qu'il a dit. Bien sûr, à la fin, vous avez le bac, il faut à un moment donné arrêter d'étudier, sinon vous étudiez à vie. Hein. Moi, j'ai vu des étudiants qui avaient 75 ans à la Sorbonne, j'étais avec Michel, voilà, et ils avaient leur petit truc, ils venaient. En général, ils dormaient, et puis quand le cours était fini, ils partaient. Bon, on peut étudier à vie. Hein. Donc, à un moment donné, il faut sanctionner, il faut dire, bon, les connaissances sont acquises, donc on peut passer à autre chose. Non, le professeur aussi, c'est pour lui de voir est-ce qu'il a bien expliqué pour savoir si le message a passé. Et pour moi, c'est ça. Hein. Est-ce que j'ai bien expliqué précédemment ? Voilà. Donc, le royaume des ténèbres, c'est juste. C'est juste. C'est le royaume, il faut l'appeler par son nom, de Satan. Hein. Royaume de Satan. Hein. Parce que Satan, c'est un être qui est hiérarchique. Hein. Il ne partage pas sa gloire. Hein. Lui, il veut sa gloire à lui. Donc on peut dire Satan, mais c'est le royaume des ténèbres. Parce qu'avec lui, il a des gens, des anges en particulier, qui sont des démons qui l'ont suivi. Donc trois royaumes. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, pour ne pas aller trop loin, hein, on a justement la culture. Hein ? On a l'évangile. Bon, ce sont quelques mots qu'il faut bien préciser pour parler de ces idoles. Et on a l'Église. On a l'Église. Hein, on est intéressé par l'Église, savoir comment l'Église se trouve dans tout ça. Alors, l'Évangile, c'est quoi ? Si vous avez une définition à donner de l'Évangile, quelqu'un dans la rue vous dit, c'est quoi l'Évangile ? Pardon ? Voilà, c'est la bonne nouvelle. Donc c'est un message. Ok ? C'est un message de la bonne nouvelle qui libère. Hein ? Vous pouvez dire ça en français, il va aimer ça. Hein ? Statut de la liberté, c'est pas une statue, c'est l'évangile. Je t'annonce l'évangile qui va te libérer. Hein. La vraie liberté, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Voilà. Donc c'est un message. L'église, c'est quoi ? Pardon ? Pardon ? Corps de Christ ?
Qu'est-ce qui me donne une définition simple de l'Église ? L'Assemblée ? Les appelés. Je sais jamais s'il y a deux P ou un P. C'est un P ? Ouais. Aux définitions, vous êtes d'accord avec les définitions de l'Église ? Ok, bah on reviendra là-dessus. La culture, c'est quoi ? Ah, je termine par le plus difficile. C'est quoi pour vous la culture ? Alors, attendez. Ça allait trop vite pour moi. Faut répéter. Ok. Donc c'est quelque chose qui est inconscient, c'est ça? Ça peut être conscient? Mais il n'y a pas d'enseignement, c'est ça. C'est-à-dire chacun se copie, c'est ça? Toutes les pensées. Oula, tu te rapproches de la définition exacte, oui. Oui, oui. Ouais. Voilà. Alors, comme vous avez les mêmes sources que moi, hein, Wikipédia ou tout ça, bon. on cherche tous pareil. Alors, c'est une façon de se comporter, de penser et de réagir. C'est une façon de se comporter. Hein, c'est une façon. De se comporter. Donc comporter, c'est le corps, hein, c'est voilà comportement. De penser, donc c'est l'intelligence, et d'agir, c'est la volonté, hein, qui vous permet d'agir. Bon, c'est un peu simpliste comme définition, mais bon, ça permet à tout le monde de voir que la culture est le produit à un instant donné, parce que des cultures évoluent. Hein, la culture française aujourd'hui n'est pas la même qu'au XVIe siècle. Hein, bon. Mais il y a des choses qui sont restées, mais d'autres qui ont bougé. Okay, donc c'est quelque chose qui est évolutif, c'est une façon de se comporter qui est évolutive, qui tient compte de croyances, de ce qu'on croit, de ce que le peuple qui exerce enfin, cette culture, qui est dans cette culture-là, il est dans une certaine croyance, une certaine foi, qu'il y a des choses qui sont vraies et qu'on fait parce que voilà, elles apportent un bénéfice. Il y a des traits, certains traits de caractère culturel qui sont transmis de génération en génération, hein, souvent par la mère en premier. Les mères sont les transmetteuses souvent de ces traditions, et ensuite par les pères et par les familles et par les amis. Et je sais pas pour vous, mais moi je sais que quand j'ai fait un écart par rapport aux traditions, à la culture de là où je suis et je me suis converti, j'étais rejeté de ma famille. Et aujourd'hui encore, presque 50 ans après, je continue d'être rejeté par mes frères qui ont toujours pas compris. Pas comment leur faire comprendre. Ma sœur a compris, mais mes frères non. Voilà. Bon, peu importe, mais ils comprendront peut-être sur leur lit de mort, je ne sais pas, on prie. Mais c'est quand vous faites un écart par rapport à votre culture, on vous rejette. Vous êtes le mouton noir. Voilà. Vous ne faites pas comme tout le monde. Mon père, quand il dit voilà, tu salis la famille, voilà, parce que la famille était toujours catholique depuis. Belle lurette, voilà, tu salis la famille, c'est une honte, parce que les autres y regardent. Mon père et ma mère étaient, voilà, adulés dans le bon sens, dans toute la ville. Voilà, bon, c'est vrai que la culture, c'est une façon globale de se comporter, et c'est très fort, très très fort. C'est quoi le microcosme? T'es d'accord, en Afrique, c'est pareil? Voilà. Alors c'est pas mal parce que tu anticipes ce que je vais dire. Parce que par la suite, je dirais qu'il y a beaucoup d'évangéliques qui font des sous-cultures évangéliques. Hein, on n'a pas besoin de chercher les cultures. Et il faut se méfier des sous-cultures, enfin, d'une culture spécifique. Parce que la culture, hein, vous pousse à faire des choses dont vous n'êtes pas conscient et qui ne sont pas justes. Et elles sont justes, tant mieux. mais ce ne sont pas justes. Donc il faut toujours s'examiner soi-même. Vous savez, quand on prend la scène, il dit « examinez-vous vous-même ». Parce que tout ce que nous faisons doit passer au filtre. Seigneur, est-ce que c'est juste? C'est pas juste. Et moi, j'admire beaucoup quelqu'un qui est mort maintenant, c'est la mère de Michel. Elle avait, avec la Bible, elle dévorait sa Bible. Et avec la Bible, elle a redécouvert des choses que nous, on a découvert plus tard par des gens très instruits au niveau théologique et tout ça. Elle a découvert simplement la lecture de la Bible. Il faut faire ça avec les enfants, etc. Incroyable. Juste avec la Bible. Donc, avec la Bible, comme c'est la vérité, si vous êtes scruteur, vous scrutez la Bible, vous pouvez trouver tous les éléments. Aujourd'hui, par exemple, dans le monde de l'entreprise dans lequel j'étais et que j'ai pu avoir l'occasion des meilleures formations qui existent, soit en ergonomie, en vision stratégique et tout ça, je m'aperçois que l'entreprise découvre des choses qui sont dans la Bible. Par contre, les pasteurs ne l'ont toujours pas découvert. Ils sont encore au Moyen-Âge. Et le monde l'a découvert. Hein ? C'est vraiment parce que ce qui est important, c'est pas ce qu'on croit, c'est ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? C'est ce qui est dans la Bible. Et dans la Bible, il y a des choses vraies. Il faut savoir les découvrir. Donc la culture, c'est un vaste, vaste, vaste sujet. Mais cette façon de se comporter, de penser et d'agir par un groupe va amener beaucoup de confusion dans le discernement de nos idoles. Quelles sont? Alors, rappelez-vous, l'idole, c'est quoi? C'est quoi, Solange? Tu vas nous quitter, mais il faut que tu te rappelles de ça. C'est quoi l'idole? Enfin, quel est le fondement de l'idole? Comment se fait l'idole? Oui? Et quelque chose qui est bon ou mauvais? Non, c'est bon. Oui, oui. Oui, non, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est quelque chose de bon. Voilà. Une idole, c'est toujours quelque chose de bon. Non, non. La transformation, après, c'est justement. C'est parce qu'on ne le voit pas, parce que c'est bon. Vous voyez, par exemple, alors ça, je le redis pour être bien compris, une idole c'est toujours quelque chose de bon au départ, mais qu'on pousse trop loin. On la pousse trop loin. Vous savez, l'ennemi c'est l'ennemi, hein. C'est pour ça qu'il arrive à séduire autant de monde. Si vous présentez quelque chose de mauvais, vous dites mais non c'est mauvais, mais non il vous présente quelque chose de bon. Hein? Comme il a fait avec Adam et Ève, il a dit le fruit là, Dieu vous demande de ne pas le manger, mais il est bon. Mais non, il est bon. Il est bon. Simplement, il s'est mal exprimé. Voilà. Il s'est mal exprimé. Voilà. Je vais t'expliquer. Dieu, il n'a pas voulu dire que tu ne devais pas le manger. Il a simplement voulu dire que, voilà, si tu le manges, tu vas devenir comme un dieu. Donc, voilà, ça va te poser des problèmes, etc. Mais il est bon. Vous voyez, il a l'art de présenter des choses bonnes sous un angle où vous allez dire, bah oui, finalement, il a raison, je vais y aller. Vous voyez ? Et hop, vous tombez dans le piège de la désobéissance. L'idole est toujours bonne, au départ, poussée trop loin. La liberté, Fernanda, c'est une bonne chose ? Liberté. Tu préfères être esclave ? Tu préfères être esclave ? Si tu as des chaînes aux pieds ? Donc la liberté, elle est bonne. Ouais. Mais si vous poussez trop loin la liberté, et si vous en faites un cheval de bataille, ça devient une idole et va vous détruire. L'égalité, est-ce que c'est bien? Ouais. Mais vous voyez, les socialistes, je n'ai rien contre les socialistes, hein, de toute façon la droite c'est la même chose, c'est d'autres idoles, elles prônent l'égalité. Et à cause de l'égalité, elle va persécuter les gens qui demandent à respecter les familles, père, mère, etc. Non, non, il faut que ce soit égal. Voyez. Donc si vous poussez, l'égalité c'est bien, vous poussez trop loin, et ça c'est la limite humaine. L'homme ne peut gérer que quelques concepts à la fois. Et donc, il met l'accent sur un concept, et il le pousse trop loin, et ça devient une idole. Seul Dieu est capable de gérer toute la complexité de l'univers, et Christ, voyez. Et nous on veut se mettre à la place de Dieu, c'est par orgueil. Parce qu'on n'accepte pas l'humilité. On n'accepte pas que laisser la place à Dieu et Dieu seul. Et nous, eh ben on reste dans l'humilité. Et l'humilité, c'est le plus dur pour l'être humain parce qu'il est poussé, surtout quand il a un pouvoir, quand il a un pouvoir, il est poussé par les gens de la base à savoir. Tu as cette place-là, tu sais pas. Bah, t'es nul. Alors, le gars, voilà, qui est à cette place-là, il dit, bon, bah, voilà, je suis nul, mais attends, il le dit devant tout le monde, ça va pas, ça. Donc, le gars, il gonfle les plumes, puis la prochaine fois, il va savoir. Vous voyez, c'est le problème du pouvoir, c'est que vous êtes poussé à savoir, même si vous savez pas. Vous n'avez pas le droit de dire, je sais pas. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que vous, chrétiens, faites attention. Si des gens vous posent des questions difficiles sur Dieu, bah, acceptez de dire, mais je sais pas. Essayez pas de trouver tout le temps des réponses. Hein. Moi, j'ai connu ça quand j'étais étudiant, dans les années 70. Bon, après 68, les étudiants parlaient beaucoup. Hein. Maintenant, je crois qu'ils sont plus dans leur cahier. Ils veulent tous un diplôme et avoir un salaire au bout. Donc, ils s'en fichent des questions, des grandes questions. À mon époque, en 68, 69, 70, on avait des grandes questions philosophiques à poser, politiques, Che Guevara. Ouais. Il y en avait un qui était là. Ah bah lui il est allé fort, hein. Il m'a pris la Bible, il m'a poussé, il m'a craché dessus, tout ça, voilà, il m'a renversé tout, voilà. Voilà, c'était des violents hein, à l'époque. Moi bon, on en a connu à la Sorbonne avec Michel, mais il se posait des questions, vous pouvez leur parler, hein. Même s'ils étaient violents, après, dites m'a dit donc pourquoi t'as fait ça, tout ça, voilà, et on interpellait. Et le plus dur c'est de ne pas se poser de questions. Mais il faut toujours rester dans l'humilité, dire je sais pas, ça je sais pas. Je sais pas, mais si tu vas vers Dieu, Dieu va te montrer. Vous voyez, vous amenez les gens vers Dieu, vous dire, bah, pose la question à Dieu. Si toi, tu te poses cette question, Dieu a une réponse. Et là, alors je sais plus où j'en étais. Je reviens à l'Église. On reviendra à la culture après. L'Église, l'assemblée des fidèles, les appelés. Alors prenez avec moi dans les actes des apôtres, au chapitre 2. L'Église est née. Quel est l'anniversaire de l'Église? C'est le jour de la Pentecôte. En l'an 0. Parce que, voilà, donc ça fait plus de 2014 ans que l'Église est née. Alors, dans acte 2, donc c'est tout de suite après la Pentecôte, ou c'est au moment de la Pentecôte, je ne sais pas si c'est le jour même. Non, c'est quelques jours après. Au chapitre 2, au verset 42, il est dit, ils persévéraient, donc ceux qui étaient ajoutés à l'Église, c'est un peu les versets qui précèdent, ceux qui se sont repentis, les 3000, etc., qui sont ajoutés à l'Église, il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. On le dit tous ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans quoi? Pardon? Oui? Voilà. La communion fraternelle en grec, alors ceux qui ont une Bible grecque, fraternelle, qu'est-ce qui est marqué en grec? C'est-à-dire l'original de la Bible. Hein. Nous, on l'a en français, mais ceux qui lisent en chinois, en anglais, c'est traduit du grec. Grec, c'est marqué quoi? Koinonia. C'est ça, communion fraternelle. Koinonia. Voilà. Ben, l'Église, c'est ça. C'est une communion. L'Église, c'est alors, assemblée, c'est très bien aussi. Hein. Communion fraternelle, une assemblée, quelqu'un qui s'assemble, une association, les gens qui s'associent, etc. Après, le français, il y a plusieurs traductions possibles, mais koinonia, c'est le terme que le Saint-Esprit a utilisé pour inspirer celui qui a écrit les actes des apôtres. Donc c'est important de savoir que ce n'est pas le hasard. Koinonia, c'est un terme que vous trouvez, je crois, plus de 20 fois dans les épîtres. Alors la fréquence, je ne me rappelle plus, je crois que c'est... Ah oui, si je l'ai là. 20 fois dans la Bible, koinonia, c'est ce terme grec qui parle de la communion fraternelle chrétienne, hein. Parce qu'il y a différentes communions fraternelles, hein, vous l'avez compris tout à l'heure, chrétiennes. Donc ils partagent le Christ. Communion fraternelle. Koinonia. De quelle communion s'agit-il ? Alors, il faut préciser un petit peu plus. La communion. La communion de quoi ? Comme union, ça vient de commun. Comme, hein, on met en commun, donc on, une assemblée de membres, une, on s'associe sur un but commun, etc. Alors, dans quel domaine est-ce qu'on communie ? Posez la question. De toute façon, vous avez la réponse. Hein. Ce n'est pas une devinette, c'est dans acte 2, 42 et la suite. Hello ? Bah, lisons-le ensemble. Lisons-le ensemble. On a la réponse. Ils étaient, donc la communion fraternelle, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. Vous voyez ? Terme communion, assemblée, ensemble, association, on y est. Ils étaient ensemble et avaient tout en commun. Communion, commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, ils partageaient le produit d'entre tous selon le besoin de chacun. Chaque jour, ils persévéraient, ils étaient au temple d'un commun accord. À nouveau, on a l'association du commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons. Prenaient la nourriture avec simplicité de cœur, ils louaient Dieu, ils obtenaient la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. À partir de là, et puis d'autres, hein, on n'a pas le temps de lire, lisez la suite du chapitre 2, quels sont les trois domaines de communion où ils mettaient en commun les choses ? Alors, ceux qui ont fait le torrent qui purifie sont un peu avantagés parce que il faut toujours amener les choses à leur plus grande simplicité. Vous êtes constitué de quoi ? D'un corps, d'un âme, voilà, et vous avez la réponse. Vous voyez ? Ouais. Votre constitution naturelle est un corps, une âme et un esprit. Ah ben, ils mettaient en commun les choses du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous voyez ? Il faut rester simple. Rester simple. Le corps, alors on peut détailler un peu plus pour voir ce qu'il y avait, c'est le matériel, tout ce qui est matériel. Hein, vous voyez ? Ils vendaient leur maison, ils mettaient tout ensemble, le matériel. Donc ils communiaient, ils mettaient en commun le matériel, tout ce qui est matériel. Les repas, les choses, etc. L'âme, c'est quoi ? Alors l'âme, il faut retourner au grec pour savoir que c'est psyché, donc c'est psychique. Ils mettaient en commun leurs pensées, leur intelligence, leur imagination, leurs émotions, voilà, ce qu'on fait aux anniversaires, voilà, nous, voilà, c'est une communion sur les émotions, sur tout un tas de choses, pas seulement l'intellect, pas seulement la pensée, pas seulement, voilà. Donc le psychique et l'esprit, c'est quoi ? Spirituel, le spirit. Spirit, c'est en grec, c'est l'esprit. D'ailleurs, à ce sujet-là, on reviendra sur la culture. La culture française, la langue forme la culture. La langue est très fortement... Enfin, c'est un des vecteurs de la culture. Par exemple, une chinoise. Prenons une chinoise. Une chinoise qui... Tiens, vous invitiez beaucoup de gens. Elle vient avec Abigail, une petite chinoise. Elle vient chez toi. À 3 ans. Voilà. Et à 3 ans, tu lui apprends, voilà, le français, voilà, elle va à l'école française, tout ça. Elle est dans un cours de récréation avec toi, enfin, quand tu étais petite, tout ça, voilà. Lorsqu'elle a 18 ans, qu'est-ce qu'elle est, chinoise ou française ? Eh oui. Vous voyez, je lui ai pas fait dire, hein. Il a donné la bonne réponse. Hein ? Est-ce que vous la savez ? Elle sera française. Eh oui. Elle sera pas chinoise. Vous voyez, la culture n'est pas liée à l'hérédité, à la génétique, à l'origine, c'est autre chose. C'est quelque chose qui se superpose. Hein, Sonite, à la limite, elle est plus française qu'Olivier. Olivier, il n'aime pas le fromage. Vous rendez compte, un Français qui n'aime pas le fromage. Vous entendez ? Churchill a dit à De Gaulle, mais c'est pas possible que tu puisses diriger un pays qui a 300 fromages. Maintenant, on en a 1000. Voilà. Il s'invectivait comme ça sur la BBC. Puis alors De Gaulle, qu'est-ce qu'il a dit ? a dit, mais toi, tu ne peux pas diriger non plus, tu n'as que trois religions. Non, tu as je ne sais pas combien de religions. Non, c'est lui, il a... Parce qu'en Angleterre, il y a tout plein de religions. Hein. Bon, les protestants, enfin, ce qu'il appelle les religions. Voilà, donc, il s'embêtait comme ça. Sur les ondes, la BBC. Revenir à notre chinoise, elle est française. Ok. Hein? Sunit est française. Changa, il commence à devenir française. etc., etc. Bon, c'est la culture. Revenons à la communion, à l'Église. L'Église, elle met en commun matériel, psychique et spirituel. C'est ça l'Église. Dans le Seigneur. En Christ. Amen. Et c'est pour ça que, bon, par la suite, vous verrez que notre organisation d'Église distingue bien ces trois choses. Le matériel, c'est la mission et l'entraide. Ici, c'est le PEA. Parce que là, c'est l'association loi 1905. On est obligé de préciser 1901. Donc l'association 1901, l'association 1905. Et là, c'est la congrégation. Parce que dans le spirituel, la mise en commun est différente. Dans le spirituel, il n'y a pas de barrière. Hier soir, Bruno, tu étais avec d'autres chrétiens, voilà, on ne fait pas de différence, ni de dénomination, ni de lieu d'où nous origines, nous sommes tous en Christ. Amen. Et quand il y a des gens qui viennent de l'autre côté de la planète, eh bien, ils sentent la communion avec nous parce qu'on est en Christ. Donc dans le spirituel, il n'y a pas de barrière. Il n'y a qu'un seul corps, qu'un seul Seigneur, etc. Donc, la façon de voir cette association est différente. C'est une association, un troupeau. Là, c'est le troupeau du Seigneur. Hein, le troupeau. Parce que congrégation, ça vient de troupeau. Hein. C'est aussi du grec. Qui vient de troupeau. Nous sommes le troupeau du Seigneur. Hein, et nous n'avons qu'un seul berger, c'est Jésus. Ouais. Ce n'est pas le pasteur qui est le berger, c'est Jésus. Hein. Donc, congrégation est là une structure universelle et intemporelle. Ici, c'est une structure psychique où on s'associe sur des buts communs. Quel est notre but? Il faut qu'on connaisse le but, les objectifs qu'on veut suivre. Et au niveau corporel, bon, bah, qu'est-ce qu'on met ensemble? On se définit les choses pour les mettre ensemble. Donc cette église, eh bien, il faut que, si on prend l'église et l'évangile, voilà. L'église, ce sont des personnes qui viennent du monde. Ok, nous appartenons tous au monde. Hein, gloire et victoire, vous êtes du monde. Voilà, vous jouez avec d'autres partenaires du monde. Voilà. Le monde, c'est simplement des gens qui n'acceptent pas Dieu dans leur vie. Ce sont des personnes humaines qui sont très respectables, mais simplement, vous parlez souvent du Seigneur, ils n'en veulent pas. Donc ils sont dans le monde. Okay, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'ils viennent dans l'Église. Hein, pas l'Église ici. Hein, l'Église congrégation. Hein, l'Église corps de Christ. Hein, pour qu'ils soient sauvés. Pour qu'ils soient libres. Hein, ensuite, après, s'ils viennent ici, tant mieux. Mais bon, et tant pis pour moi, parce que j'ai du boulot. pour les former. Mais bon, c'est un bon problème. Donc, on vient du monde. Donc, c'est des gens du monde qui sont simplement hors du monde. Et c'est quoi la différence entre le monde et l'Église, essentiellement? C'est les mêmes personnes. Hein, Tom, tu as des copains, ils sont comme toi. Ils sont grands, ils sont peut-être petits. Ils sont peut-être moins bons que toi au foot, mais bon, voilà, chacun a ses trucs. Voilà, mais c'est les mêmes personnes dans le monde que dans l'Église. Donc c'est quoi la différence entre le monde et l'Église? Les valeurs, le fait. Prenez avec moi Jean, 1 Jean, 1 Jean 2, 1 Jean 2. C'est là qu'il y a la réponse. Absolument. C'est l'amour de Dieu. Celui qui l'a bien compris, c'est Saint Augustin. Dans son livre, Saint Augustin, c'est un chrétien qui a vécu au IVe siècle à Tunis, Hippone, Tunis, et il a écrit les deux cités, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu, ceux qui ne l'aiment pas. Hein, c'est deux amours, l'amour de Dieu et l'amour du monde. C'est simplement deux amours. Hein. Et là, vous l'avez dans 1 Jean, j'y suis pas encore, 1 Jean chapitre 2, verset 15, il dit « N'aimez pas le monde ». Le proto Jean dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. » Vous voyez, la définition du monde, c'est pas que le monde est mauvais en soi. C'est simplement quand on s'attache au monde, c'est-à-dire à l'esprit du monde, aux valeurs. Tout à l'heure, Bruno parlait des valeurs du monde, à l'amour de soi, parce que le monde, il pousse, il vous pousse à vous aimer vous-même. Et comment est-ce qu'il le fait, Mario? Comment est-ce qu'il vous pousse? Comment il te pousse à t'aimer, toi? Bizarre, hein? Curieux, ça. Comment ça se passe, ce truc-là? C'est très simple. C'est très simple. Il y a un économiste anglais, je crois, j'ai entendu ça à la radio, hein, vous savez, je vous fais part de ce que j'entends à la radio. À la radio, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, un économiste anglais qui était, il y a quelques années, le plus riche de la Terre. Je ne sais plus, des pétroles, voilà, pétrole, ça rend riche. Et il est devenu un des responsables, alors je ne sais plus de quoi, à l'ONU. Il est devenu responsable des peuples, je crois, à l'ONU. Donc l'ONU, c'est les nations du monde entier, quoi, qu'on dirige. Et il a dit ceci, il a dit, il faut que chaque citoyen du monde devienne un consommateur. Voilà. Donc vous êtes réduit à un consommateur. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, le monde, aujourd'hui, eh bien, il veut que tu consommes le plus, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu m'enrichis. Ça, c'est pas dire. Voilà. Voilà. Il veut que tu sois consommateur. Alors, j'étais étonné parce que, vous voyez, moi, je mets souvent du temps à comprendre des choses. Là, j'ai compris maintenant. Et quand il y avait les gens de Céphénaï qui étaient là, en particulier, le gars qui était le Dean of Students, là, Gigi. Vous vous rappelez de Gigi? Non? Ah, je vois qu'il y a les jeunes qui sont pas là. Gigi, voilà, celui qui dirige les jeunes. Bah, il fait un doctorat en théologie. Et je lui ai dit, mais voilà, j'ai interrogé. Mais j'aime bien interroger les gens. Je lui ai demandé, aux États-Unis, pourquoi est-ce que quand je vais aux États-Unis, avec ma femme, on y était, j'ai dit à ma femme sur l'autoroute, j'ai dit, mais écoute, c'est pas possible. On fait des kilomètres, des centaines de kilomètres. Et tout le temps, je vois des magasins. Je dis, mais comment est-ce qu'ils vendent tout ça? Magasin, McDonald's, machin, truc. Enfin, voilà, vous voyez sur la route, vous voyez des maisons, vous voyez des magasins partout. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est la folie, quoi, ce truc-là. Je sais pas comment ils peuvent vendre, quoi. Alors, il m'a dit, bon, bah, il y a certains qui ferment aussi les malls, là. Les malls, c'est les. Bon. C'est les centres commerciaux. Bon. Ils sont énormes. Alors, il dit, oh, bah, il y en a qui font faillite aussi, hein, bon. Mais, c'est incroyable. Bon, chez nous, ça vient, hein, vous voyez. Bon. Mais chez eux, alors là, c'est de la folie, quoi. Eh ben, Gigi m'a dit, tu sais, c'est très simple, hein. Gigi. Il m'a dit, c'est très simple. C'est que, en fait, le gouvernement américain, il considère que chaque citoyen américain, qui est un bon citoyen, eh bien, il doit consommer. Plus il consomme, meilleur il est citoyen. Je dis, waouh, c'est pas ça. Donc, vous voyez, quand on suit une culture, ça c'est une culture d'État, eh bien, on y arrive. Et sachez que dans toutes les constitutions, moi j'avais un professeur, quand j'étais formé, qui a étudié toutes les constitutions des États. Vous voyez, les constitutions françaises, tu la connais? 1789 et les constitutions, voilà. Français indivisible, laïque, etc. Voilà. Bon, bah, si tu étudies les constitutions dans les premiers préambules, le préambule, c'est ce qui est avant les. Voilà, c'est marqué ce que tu vas devenir comme citoyen. C'est incroyable. Ça forme le citoyen. En France, on a une seule chose qui ne se trouve nulle part dans aucune constitution, c'est quoi? Droit de grève. Je ne veux pas de dessin. Bon. Au Japon, il y a une chose qui se trouve dans la Constitution. Parce que tout le reste, c'est de la copie. Hein. On a la même Constitution aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a au Japon ? Pardon ? La sieste ? Non, c'est les Chinois, ça. Les Chinois, ils se couchent. Non, non, j'en sais rien à ce qu'il y a, les Chinois. Mais le Japon, je sais. Pardon ? Non ? Les Chinois, dans la Constitution, il leur dit « Chaque Chinois doit chercher de l'information. » Je ne fais pas de dessin. Chez nous, quand on recevait les Chinois, l'aérospatial, vous savez, l'un des secrets, parce qu'on lance des satellites militaires et tout ça, eh bien, ils venaient avec des chaussures et ils marchaient dans l'atelier et ils récupéraient des copeaux. Parce que dans les trucs mécaniques, ils récupéraient des copeaux. Des copeaux, bah, des copeaux, c'est ce qu'on voulait. Eh bien, ils allaient le soir dans leur hôtel, ils analysaient les copeaux, savoir s'il y a du nickel, du chrome, du machin, et ils savaient qu'on faisait la bride d'Ariane dans tel matériau pour pouvoir le reproduire après. Ils étaient très très malins. Et chaque Chinois, et alors au début on ne comprenait pas, parce qu'on faisait des trucs très très sophistiqués, des brevets, tout ça, moi j'ai déposé des brevets, et puis ils ont dit, ah, on veut acheter ça, c'est super, hein, c'est capteur solaire là. Et puis en fait, ils sont venus, et puis au bout d'un an, ils n'achetaient toujours pas. Ah, dit non, attendez, chez nous, on va vous envoyer une autre équipe. Pendant 10 ans, ils envoyaient chaque année une autre équipe, et ils piquaient tout. Et puis après, on a vu, ah bah tiens, ils font la même chose, bah, oui, ils piquaient tout, mais ils n'ont jamais acheté, hein. Malin. Hein, voilà. Bon. Mais voilà, ils sont programmés par la culture. On leur dit, vous pouvez faire ça, vous avez le droit de faire ça, et même si vous voulez être un bon citoyen, faites-le. Pourquoi il y a des obèses comme ça aux États-Unis ? Ben, ils consomment. Je veux dire, voilà, ils suivent ce qu'on leur demande de faire. Vous voyez, la culture, je vous donne juste un aperçu de la culture, hein. Ça conditionne notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon d'agir. Attention, la culture, c'est pas l'évangile. Il faut que le monde qui soit dans l'Église, il reste pas le monde. Il faut qu'il soit transformé par l'évangile. Amen. L'évangile, c'est un message libérateur. C'est un message libérateur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, examinez-vous vous-même. Si nous ne nous examinons pas, bah, on marche comme des bœufs, quoi. Hein. L'autre, il suit, bah, voilà, je suis, bon, voilà. Hein. Non, soyons des gens qui sont transformés par l'évangile. Amen. Hein, je crois que vous avez cet exercice à faire hein, dans votre activité. C'est pas évident. Souvent, on se retrouve seul. Il faut imaginer, mais est-ce que ça plaît au Seigneur ? Est-ce que ça, c'est conforme à l'évangile ? C'est pas conforme à l'évangile. Et on doit le faire tous à notre niveau. C'est un travail. C'est un travail. C'est un travail pour la gloire du Seigneur. C'est un travail pour nous libérer. C'est un travail pour être efficace dans le royaume de Dieu. Amen. Et c'est un travail pour être libre. Amen. Parce que la culture vous dit, non, arrête, t'as pas le droit. Ah, pourquoi j'ai pas le droit? Bah, l'évangile, bah non, t'as pas le droit parce que tout le monde te regarde. Bah oui, mais est-ce que je fais attention à ce qui me regarde ou est-ce que je fais parce que le Seigneur le veut? Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui m'empêche la culture d'obéir au Seigneur. Et c'est très subtil, c'est très très imprégné, y compris dans les églises. Donc l'église, qui est simplement des gens du monde qui ne sont pas dans l'esprit du monde, parce qu'ils aiment Dieu, là il est parlé de l'amour du monde et l'amour de Dieu. Donc les gens de l'église, ils aiment Dieu, on est d'accord, mais ça ne suffit pas. Il faut que l'évangile les transforme. Il faut que l'évangile soit un élément de transformation. Et Jésus a pris un exemple. C'est quel exemple qu'il prenait? Quand il parlait tout le temps à ses disciples, il parlait de ça, tout le temps. Tout le temps. Quel est à votre avis l'exemple le plus significatif de ce que je viens de vous expliquer là, et qui est pris par Jésus vis-à-vis de ses disciples? Oui, très bien. Qu'est-ce qui a dit ça? Super, pourquoi tu as dit ça? Ah, je suis méchant, hein. Exactement. Le levain, d'ailleurs, moi, ça m'a un peu troublé dans les paraboles de Jésus, parce que des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. C'est simplement parce que c'est la même chose, c'est le même ingrédient, la petite chose que tu mets dedans, qui peut lever toute une pâte. Mais attention, c'est dans les deux sens. Hein, c'est pour ça que des fois, il y a des paraboles qui sont, je dirais, positives ou négatives, dans le sens où il y a un levain dans le monde. C'est quoi le levain ? c'est l'amour du monde. Bon, pour résumer, hein, ça comprend tout le reste. L'amour du monde, là, Jean le dit, l'amour du monde empêche de recevoir l'amour de Dieu. C'est Augustin, les deux cités. L'amour de Dieu, l'amour de soi. L'amour du monde. Alors attention, hein, l'amour du monde, c'est pas ouais, t'es allé voir un film de Charlot, t'es dans le monde, voilà. Ça, non, mais oui, c'était. Je vous dis cet exemple-là parce que le grand docteur en théologie que j'aime beaucoup, John White, quand il était petit, vous savez, surtout les Amish sont très, très. Ouais, le monde, voilà. Pas y aller, bah, pendant 8 jours il n'a pas dormi parce qu'il a vu un film de Charlot et sa conscience était troublée parce qu'il avait péché. Voilà. Et il a dû mettre beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est pas si grave que ça d'aller voir un film de Charlot au ciné. Voilà. Et bon, ça c'est une question de conscience, c'est un autre domaine. Pour revenir au monde, l'esprit du monde, c'est le levain. Et Jésus a dit à ses disciples en disant faites attention au levain de quoi ? Les pharisiens. Parce que les pharisiens, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde. Même s'ils sont dans l'église, c'est l'esprit du monde. C'est la duplicité. C'est, voilà, les religions, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Facile, ça. Hein, voilà. Ça, c'est l'esprit pharisien. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ok. Hein, moi, ce que je dis, c'est parfait. Hein. Tu vas 10 fois au temple, tu donnes ta dîme aux pauvres, tout ça, voilà. Je le fais pas, mais bon, fais-le, voilà. Ils vous mettent un fardeau sur les épaules. Ça, c'est la religion. Le vin des pharisiens, c'est l'esprit du monde. Et l'esprit de l'évangile, c'est quoi ? Le levain de l'évangile, pardon. Le levain de l'évangile. Pardon ? C'est la même chose, mais inversée. C'est ce qui est bon. C'est quelque chose que vous mettez dans la culture, c'est quelque chose que vous mettez dans l'église, c'est quelque chose que vous mettez dans votre vie et qui va vous bonifier, qui va vous rendre, qui va vous transformer. C'est l'évangile. Amen. L'évangile, c'est insignifiant, mais personne ne peut le détruire. Regardez dans les pays persécutés, plus ils détruisent les chrétiens, vous avez vu en Madagascar là, le film ? Plus ils détruisent les chrétiens, mais plus il y en a qui se convertissent parce que quand ils voient ça, dit wow, « Waouh, ça vient pas du monde. Ça vient pas du monde. » Ils sont touchés dans leur cœur et ils se convertissent. C'est ça. Les martyrs, ils convertissent les gens. Parce que ceux qui cherchent au fond, et les Français, ils cherchent au fond. Ils sont épris de justice. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont été trompés par la religion. C'est tout. Ils ont été trompés. Trop longtemps. 2000 ans de tromperie. En Corée, une fois, j'ai dit « Mais pourquoi il y a tant de Coréens qui sont chrétiens ?» Séoul et tout ça. On m'a dit, mais c'est simple, il n'y a que depuis 150 ans qu'ils connaissent l'évangile. Donc, ils n'ont pas eu le temps de voir toutes les exagérations que nous, on a connues depuis le début du siècle. Voilà. Donc, les gens aujourd'hui, ils sont écœurés de la religion parce qu'il y a eu trop d'exagérations. Mais ça n'empêche qu'au fond, ils cherchent. C'est pour ça qu'il faut toujours parler aux Français, même s'ils n'écoutent pas. Dites-leur une parole. Bruno est très bon là-dedans, regardez, vous envoyez un petit truc, un petit SMS, un petit machin, voilà. Bon, même s'il n'est pas content, la parole de Dieu va faire son effet. Parce qu'au fond, ils cherchent, mais ils ne veulent pas être agressés par la religion, donc ils mélangent religion et relation. L'évangile, c'est un levain, c'est une petite graine, un petit message, une petite chose, mais qui donne de grandes réalisations, de grands effets. Amen. Donc il y a le levain du monde, mais ça on n'en veut pas, et le levain de l'évangile, on en veut. Amen. Vous voulez le levain de l'évangile ? Alors prions. Seigneur, tu es venu pour apporter cette bonne nouvelle, Seigneur, qui et que toi, Seigneur, tu n'as pas simplement prêché, mais tu as mis en pratique l'amour, Seigneur, que tu avais pour nous lorsque tu es venu sur la terre. Tu as accepté que le Père te demande d'aller jusqu'au bout et de donner ta vie pour nous, Seigneur. Tu l'as mis en pratique. Et Seigneur, la capacité avec laquelle tu l'as fait, Seigneur, nous donne cette autorité maintenant de le faire nous aussi, Seigneur, à notre petite échelle, à travers du message de l'Évangile. Seigneur, que nous n'ayons pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Que nous puissions, Seigneur, tout simplement, c'est vrai, en commençant par un sourire et en finissant par une parole, ne serait-ce que de bonté, Seigneur, même si c'est pas un verset que nous récitons, mais que la bonté, Seigneur, comme l'a dit Michel ce matin, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est pas la sévérité, c'est pas la dureté, c'est pas, voilà, c'est la bonté de Dieu, dit la parole, qui nous pousse à la repentance. Seigneur, que cette bonté, nous puissions l'exprimer dans notre être tout entier. Corps, âme et esprit, parole, gestes, attitude. Seigneur, que c'est cette bonté de Dieu qui puisse rayonner au travers de nous et que les gens disent « Ah, ils sont différents, ils sont différents ». Et que nous n'ayons pas la recherche de jugement, de choses, Seigneur, qui nous feraient plaisir, Seigneur. Parce que l'évangile n'est pas ça. L'évangile, c'est parler de toi et pas de nous. Seigneur, c'est pas nous élever, c'est pas non plus de nous abaisser, c'est simplement de parler de toi, Seigneur. Afin que ce levain de l'évangile puisse agir dans les cœurs de ceux que tu places à nos côtés. Nous sommes responsables de leur sang. Et nous voulons, Seigneur, simplement, non pas nous efforcer de le faire, mais d'être en Christ. Et alors, Seigneur, ils seront touchés. Seigneur, nous te bénissons pour cela, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, pardon, pas avoir beaucoup avancé, parce que je suis encore très loin de Jonas, mais je crois que c'est important de poser les bases culturelles pour que vous compreniez quelle est l'erreur de Jonas, que nous aussi on fait. Amen. Voilà, j'invite ceux qui sont désignés pour la scène.